EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle. Nous sommes en train de mûrir sur un sujet vraiment passionnant. Nous sommes en train de parler de commencement. Commencer les choses avec réussite. Quel est l'art de débuter d'une manière efficace? La Bible nous montre très bien beaucoup de choses qui peuvent nous aider lorsqu'on démarre quelque chose, on démarre une nouvelle entreprise, on démarre un projet, on démarre une relation, on démarre une année. Dieu nous donne beaucoup de vérités, beaucoup de secrets dans sa parole pour que nous démarrions efficacement. Et dès le début, je vous ai parlé de lui-même en tant que notre alpha. J'ai montré la place de la dédicace, l'importance des prémices. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'important. Le fait qu'au début, quand on commence, il faut faire deux choses importantes. Proclamer la parole, donc prophétiser. Proclamer la parole et la vision. Et la deuxième des choses, l'organiser, structurer et en faire un plan. Il y a à la fois parler et il y a à la fois organiser ce qu'on a dit. Ne démarrez pas comme ça, parler et organiser. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Quelques passages bibliques intéressants peuvent déjà nous aider d'entrée de jeu lorsqu'on veut parler de parler, prophétiser et accomplir cela à travers un plan. Prophétiser, parler la vision, la proclamer et puis la structurer. Lisons d'abord Habacuc, chapitre 2, versets 2 à 3. Que vous lisiez Habacuc ou que vous lisiez Habacuc, ça dépend de comment vous prononcez. 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Vous avez entendu ça? Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu présente une vision à son serviteur, lui dit ce qui va être fait pour le peuple d'Israël. Et il dit, même dans le processus, vous aurez cette impression de tarder. Vous sentirez que ça tarde, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Mais votre travail à vous, ce que maintenant que je parlais à toi, le travail Habacuc, c'est que j'ai parlé, écrit. Pourquoi? Ce n'est pas pour toi. C'est pour que d'autres personnes viennent trouver cela et qu'ils fassent quoi? Qu'ils la lisent couramment. Il démontre à Habacuc ici que le seul moyen de faire parler au peuple ce que je dis, c'est de passer par écrire. Si on écrit ce que je dis, on dira alors ce que j'ai écrit. J'ai deux mots, je répète ça? Ok. Si vous écrivez ce que Dieu a dit, lorsque les autres liront ça couramment, ils seront en train de dire ce que vous avez écrit. Donc la parole qui était dite redeviendra la parole dite. Au travers de quoi? De l'écriture. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Heureux est celui qui garde la loi. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de destination, quand on ne sait pas où on va, le peuple est sans frein. Le peuple est incontrôlable. Lisons enfin Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous savez, depuis les quelques temps, je vis les hivers ici au Canada. Je sais que l'hiver ne rentre pas. quand la neige tombe, ça remonte pas. Ça fait que tomber comme ça. La neige ne vient pas du sol pour remonter. Et quand la neige tombe, elle va tomber. Elle va vraiment arriver jusqu'au sol et elle va se transformer en eau. C'est que cette analogie que Dieu fait ici est vraiment certaine. Autant l'eau, la pluie quand elle descend, la neige vient, arrose le sol, couvre la terre, ainsi de suite. Autant la parole de Dieu n'est jamais sans effet. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit va s'accomplir et sa parole ne lui reviendra jamais sans avoir accompli son dessein. Lisons aussi Luc. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3. Comme ça, on va arrêter de lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je viens de lire avec vous plusieurs passages qui sont soit dans le contexte de la prophétie, le contexte de la vision, le contexte de la planification, le contexte de l'écriture d'une parole prophétique, le contexte d'écrire et préparer ce qui doit être fait. Lorsqu'on démarre une institution, on commence quelque chose, en tant qu'enfant de Dieu, on doit user de toutes les faveurs divines de démarrage. Et parmi elles se trouve la puissance de la prophétie, la proclamation de la vision et la structuration. Nous aimons bien la parole prophétique et on en a fait même, il y en a ceux qui en ont une foi, voilà, il manque jamais d'extrémisme. Toutes tes paroles de déclaration. J'entre, je déclare, je prophétise. Prophétise sur toi-même, prophétise. Ça sert à rien si vous faites ça et après vous ne structurez pas. Pourquoi est-ce devenu comme ça? Qu'au milieu d'enfants de Dieu, plus on leur demande les actions, plus eux ils transforment ça en prière. Plus on leur demande de faire une chose, plus eux ils vont prier. On leur dit, moi, vraiment, il faut exécuter le projet. Je dis non, le projet n'est pas facile, les grands, ça me demande plus de temps de prière. Mais quand est-ce que tu vas descendre sur le terrain et le faire? Il y a un secret. Chaque début doit profiter de deux choses. De la parole prononcée comme une parole prophétique, d'une déclaration d'un avenir certain et d'un travail de structuration. Lorsqu'on a parlé, ça doit créer une vision claire et on doit structurer cela. Si vous commencez, posez-vous la question, est-ce que les gens qui sont avec moi voient ce que je vois? Est-ce que vous-même d'ailleurs, vous voyez ce qu'il y a dans cette affaire? Avez-vous une vision claire d'où vous êtes en train d'aller? Au début, une des choses à demander, c'est la vision. Il faut qu'elle soit claire. C'est la parole avec laquelle on doit marcher, la vision de l'avenir où nous sommes en train de partir. Une fois que vous avez ces deux choses, bienvenue la planification, la structuration. Il faut mettre des étapes, il faut mettre des plans. On dirait que les chrétiens, la seule chose qu'ils aiment comme plan, c'est le plan que Dieu a formé pour eux. C'est bon. On sert un Dieu qui a formé un plan. À partir de ce moment, on se dit, pourquoi moi je vais faire un plan? Jusque de faire un plan, et le Saint-Esprit est en compte. Je ne vais pas faire mes plans moi-même, je vais faire le plan de Dieu. Les plans de Dieu, il te donne pour que tu l'exécutes. C'est ça le plan que tu écris. C'est ça le plan. Dans le plan que tu es en train de faire, ce n'est pas exprimer ta volonté à la place de Dieu. Non, c'est justement traduire ce que tu as compris jusqu'ici de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle un plan. Voilà 5 leçons que je vous propose en ce qui concerne ce domaine de prophétiser, créer la vision et aussi structurer ce qu'on a reçu. 1. Rédiger la vision permet de courir avec elle. Elle rend courable. On dit que On utilise l'expression courable, surtout en matière d'animaux. Vous savez, les animaux que vous pouvez prendre en course, le suivre. Vous savez, vous avez une gazelle et il est courable. C'est-à-dire qu'il faut le suivre. Une vision, lorsqu'elle est écrite, ça donne des jambes à la vision pour qu'elle commence à prendre de la vitesse. Vous pouvez alors marcher, courir avec elle. Mais quand vous avez une vision qui n'est que dans votre tête, vous commencez quelque chose qui n'est dans aucun papier, aucun système, aucune vidéo, eh bien, on peut pas courir avec elle. On n'en connaît pas la vitesse, on n'en connaît pas la direction. Vous qui démarrez, vous qui commencez quelque chose, mettez-la quelque part. Écrivez-la cette prophétie, comme on a lu dans Habakkuk. Écrivez-la quelque part. Mettez-la par écrit, mettez-la dans une vidéo, faites un audio. Il faut que, plus que vous, quelqu'un d'autre en parle. Vous savez, moi, dans ma petite vie, j'ai découvert le bonheur, le bien fondé, d'exprimer sa vision et d'aller la réécouter soi-même. À force d'exprimer ma vision, de la réécouter, d'exprimer la vision que Dieu m'a donnée, la réécouter, l'exprimer, faire des PowerPoint, préparer des enseignements, écrire ça, j'ai pu commencer clairement à mettre les mots, à trouver la façon simple de dire la même chose. Mon langage au début n'a pas été le langage d'après les mois qui ont passé. Ça s'est affiné, ça s'est fignolé. Nous, on a peur en tant que chrétiens d'écrire ce que Dieu nous dit. D'écrire ce que Dieu met dans notre cœur parce qu'on a l'impression que, non, si j'écris, c'est que je bloque le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que tu as découvert, il est où? Pas dans les Écritures. Et là, il a pas été bloqué dedans? Pourquoi tu penses que si tu écris, tu vas limiter Dieu? Non, je ne veux pas écrire, sinon je vais limiter Dieu. Tu lis la Bible, Dieu y est limité dedans? Le Dieu que tu connais, l'illimité Dieu que tu connais, tu le connais où? Ce n'est pas dans un nombre de livres bien limité ici? Écrire, ce n'est pas limiter Dieu. Rédiger la vision, c'est la rendre courable, la rendre, être capable de courir avec elle. Pourquoi? Parce que la formule est simple. Lisible égale transmissible. C'est ça l'idée. Lisible égale transmissible. Si on peut la lire, on peut la transmettre. C'est ce que Dieu montre à Habakkuk aussi, il dit, toi tu écris, les gens pourront la lire couramment. Ça fait parmi les plus grands réveils de la Bible. Ça n'a pas été, les plus grands réveils de la Bible ne sont pas venus parce que des individus ont lu individuellement, chacun dans son coin, le document. Non. Souvent, les grands réveils de la Bible, les réveils collectifs, sont arrivés lorsqu'on a lu pour tout le peuple. Le peuple n'a fait qu'écouter la lecture courante. Pas chacun est allé faire une méditation personnelle. Vous savez combien il est important de lire? Si je lis la pensée que tu as, tu communiques mieux ce qu'il y a dans ton esprit. Oh, croyez-moi, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, veut pérenniser sa pensée pour que les races, les peuples qui viendront partout dans le monde, quel que soit le temps, ils connaissent ce que Dieu pense. Et qu'est-ce qu'on a? De quoi lire? De la matière. La Bible. Dieu trouve que ce moyen est fiable. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi tout est dans ta tête? Pourquoi ce n'est écrit nulle part? Qu'est-ce qui te fait croire qu'écrit, ce serait, ah, si j'écris, est-ce que ça serait vraiment la volonté de Dieu? Je ne sais jamais ce que Dieu veut. Mon ami, si les gens qui écrivaient la Bible avaient la même peur que toi, nous n'aurons jamais la Bible. Mais aujourd'hui, on a toute la joie de dire, ah, oh, ces gens, ils étaient vraiment inspirés de Dieu. Et Dieu a vraiment parlé dans leur plume. Ils ont écrit. Écrire la vision, quand elle est lisible, elle devient transmissible. Ce que tu as écrit, je peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Écrire, c'est comme pérenniser une pensée. Dans les Écritures, vous donnez de l'âge à une pensée. Parce que ce qui est écrit, même quand moi je serai mort, ça va continuer à subsister. Écrire, c'est donner une vie, une longévité à votre vision. Vous la rendez capable de passer d'une main à une autre. Mais si ce n'est que dans votre tête, si ce n'est que vous qui vous pensez, il faut qu'on vous voie pour qu'on y pense. Ah, c'est ma vision, je sais ce que je veux. Je n'oublierai jamais. Ça, je demande pas à tout le monde de faire ça, hein. J'aimerais déjà prévenir. Mais je n'oublierai jamais les fois où j'ai dû écrire certaines choses pour notre famille. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais. Hein. Ben, je ne le présente plus à tout moment. Hein. Je m'en vais être très sincère. Pas que je présente pas de temps en temps, mais plus à tout moment comme avant. Mais avec ma fiancée, j'écrivais déjà les notes de où nous devons aller. Et dans nos petites conversations, je les avais écrites. Je me souviendrai la fois, à ma surprise, on parlait avec elle, m'ont parlé, mais pour que je ne puisse pas oublier certaines choses, je les avais écrites dans un carnet. Je les ouvrais à côté, je regardais. Ah, il faut que je pose cette question. Puis je revenais. Ah oui, dis-moi. Je voulais rien oublier. Allez, allez, je voulais rien oublier. Des fois, on est tellement prise par la beauté de sa fiancée, on est perdu à l'intérieur. Et puis finalement, quand on est à la maison, on se dit, j'aurais dû poser cette question bien avant. Et chaque fois que nous sommes dans une saison importante de notre famille, j'écris, je prépare. Moi, j'ai des notes. Ça me permet de ne pas perdre les notes. Je me souviendrai une fois, on était en mission quelque part, mais on était allé prêcher, mais il y avait des choses importantes pour la famille. J'ai fait des slides, des PowerPoint, je me promenais avec un petit vidéoprojecteur comme ça, très efficace. On était dans la chambre d'hôtel, gloire au Seigneur, les murs étaient tout blancs. Donc j'ai branché, nous on était assis sur notre lit, j'ai dit, chérie, j'avais des choses, je voulais qu'on en parle. Oui, oui, oui. Elle voit que je sors le PowerPoint, pas, j'ai dans projection. Désolé, je ris de ça. Parce que quand elle raconte elle-même cette histoire, elle dit, mais quel genre d'homme j'ai. Je parle de ça. Pour qu'on vienne ici, la période où il fallait les Seigneurs nous parler de notre déplacement, c'est sur un plan que je sortirai dans mon ordinateur aujourd'hui, où c'est bien clair. Mes amis, quand vous écrivez, c'est mieux. Quand vous écrivez, vous suivez à la lettre les accomplissements. La lisibilité donne la rend transmissible. Quand c'est lisible, c'est transmissible. On peut suivre un plan. Et vous savez, la beauté de tout ça, c'est que chaque fois quand je viens regarder ces slides, après, je me dis que Dieu est précis. Certains des mots que j'ai utilisés là-bas, j'en avais une image différente. Mais lorsque ça a été accompli, je regardais les mots, je dis, mais oui, c'est ce que Dieu avait dit. Si vous voulez commencer, écrivez ça. Deuxièmement, sans révélation, le peuple se défait. Le peuple n'a pas de direction. Mes amis, il est important que si vous voulez commencer quelque chose, vous puissiez la baser sur un ainsi dit l'Éternel. Il faut une révélation bien claire. Proverbe 29, 19 l'a dit, n'est-ce pas? Quand il n'y a point de vision, le peuple et sans frein. Heureux celui qui garde la loi. Quand il n'y a pas une révélation claire, quand on ne voit pas où on va, le peuple se défait. Vous ne dirigerez personne quelque part s'il n'y a pas de quelque part. Je vais répéter ça. Vous ne dirigerez jamais les gens à une destination si la destination n'est pas connue. C'est ce que j'appelle ici la révélation. La révélation, c'est la découverte de la destination. C'est le fait que la destination finale soit connue, exposée, dévoilée. Quand Dieu te fait découvrir la destination finale, c'est ce qu'on appelle la révélation ici. Quand vous commencez, les gens ne pourront pas vous suivre. S'il n'y a pas de révélation, on va où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la fraîcheur de la pensée de Dieu dans tout ça? Pourquoi je ferais ça avec toi? Parce qu'il y a l'autre qui fait ça aussi. Pourquoi il faut qu'on le fasse avec toi? Pourquoi toi? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec toi? Quelle est cette découverte divine? Quelle est cette partie cachée à plusieurs que Dieu n'a ouvert que pour toi? C'est ça qu'il faut exploiter. Troisièmement, la parole accomplit toujours sa mission. Je vous ai lu tous ces passages au début. Le Seigneur dit, ma parole ne me revient jamais. N'oubliez pas, je suis en train de parler de la parole, de la vision et de la structuration. Je montrais qu'il faut que ça soit écrit. La vision, c'est important. Sans la révélation, on n'avance pas. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, elle accomplit toujours son but. C'est pourquoi quand vous voulez commencer, mon frère, parlez du bien de ce que vous faites. Déclarer, prophétiser pas seulement dans l'idée de révéler l'avenir, mais prophétiser dans l'idée de proclamer les bonnes choses de la destination finale. Il est possible que vous soyez le seul à avoir vu où vous allez et personne ne croit en vous. Alors, il n'y a que vous pour arroser. Avec les paroles que Dieu vous a données, il n'y a que vous pour arroser cela. Quand tout le monde regarde et dit, ah, vous serez quoi vous? Je me souviendrai toujours que quand j'ai demandé la main à ma femme, elle était déjà la grande célèbre sœur Shiloh. franchement, de toutes les personnes qui pourraient l'épouser, ça ne pouvait pas vraiment être le monsieur... le monsieur là avec qui il chante. Les garçons là avec qui il chante, les frères là, qui n'a rien comme elle. Et deux sont des pauvres deux musiciens qui savent rien, qui n'ont rien de spécial. Une telle fille célèbre, tout le monde voudrait qu'il marie quelqu'un de connu, de bien positionné dans la vie. Pas un pauvre collègue qui se bat dans la vie avec elle. Lorsqu'on a pris nos engagements l'un à l'autre, je n'ai pas cessé de s'aimer dans notre couple, en rappelant à ma femme que moi je suis moi, toi tu es moi, toi tu es toi, mais quand on se marie, toi et moi, on est comme un être à part entière. Mélanger Atoms et Nadège, c'est un genre d'autre mélange. C'est une entité en soi. C'était mon expression. Je ne veux pas créer des théologies autour de ça. Je commençais à apprendre que Dieu avait fait des promesses qui n'étaient ni des promesses d'Atoms, ni des promesses de Nadège, mais c'était des promesses d'Atoms et Nadège. Je commençais à proclamer, à insister sur ces promesses-là. Il y a des promesses d'Atoms, il y a des promesses de Nadège. Chacun a vécu ça avec lui, il l'a amené dans le foyer, mais il y a des promesses, des paroles, des prophéties de Atoms et Nadège. Et c'est ça que je commençais à proclamer. La parole accomplit sa mission. Plus tu déclares la parole ne reviendra jamais à Dieu sans avoir accompli sa mission. Alors quand tu démarres, proclame ce que Dieu a dit sur ce que tu commences. Même si c'est informe et vide, proclame la parole. Vous savez, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme, il y avait tout ça, mais la Bible dit que la lumière soit. La lumière n'a pas dit, il y a beaucoup de ténèbres aussi, c'est pas évident. La lumière est arrivée, elle est venue et les ténèbres sont parties. C'est ce que tu proclames qui va changer ce qui t'entoure. Tu peux démarrer dans un contexte très hostile où les gens se disent, OK, tu sais que tu démarres là, il n'y a pas de place ici, hein, pauvre. Continue à proclamer ce que Dieu t'a dit. Même au milieu de la sécheresse, continue à proclamer la parole. Quand tu démarres, ça demande de proclamer la parole. Quatrièmement, planifier n'est pas charnel, c'est fidèle. Quand vous planifiez, mes amis, ce n'est pas être charnel. C'est être fidèle au plan que Dieu vous a donné. Dans Luc, je lis avec vous, quand Jésus parle du fait de bâtir, il dit, qui est cette personne qui, lorsqu'elle veut bâtir, ne va-t-elle pas s'asseoir, calculer? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, nécessite d'abord pour calculer la dépense et voir... il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Dieu, c'est Jésus qui enseigne, hein? Il dit, cette pratique que je vous enseigne existe déjà au milieu de vous. J'aimerais tirer cette leçon d'une réalité déjà local, social. Il dit, lequel de vous fait ça? Est-ce que vous, là, quand vous êtes là, vous voulez construire, vous ne vous arrêtez pas pour faire un budget, calculer, préparer déjà, de peur qu'en ayant commencé de construire, vous arrêtiez en chemin, on se met à rire de vous? Mon frère, si Jésus, pour nous enseigner une leçon éternelle, ne prend pas les choses d'en haut, mais il prend les choses que nous, les hommes, on applique déjà. Allez, commande-toi pas au nom de spiritualité, au nom du fait que tu as une parole venue de Dieu, tu as peur de planifier, de faire un plan d'exécution. Parce que tu te dis, ça c'est charnel, ça c'est manquer de foi. Ah. Dieu a donné des années et des années durant son plan d'exécution. C'est pourquoi la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Comme le serpent fut élevé dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Désormais, vous verrez l'échelle, les anges monter et descendre. Dieu a fait un plan bien précis, bien clair au sujet de la venue de Jésus. Et là où nous sommes, la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous sommes rassurés de l'avenir, c'est parce que nous savons comment tout ceci va finir. Nous connaissons le plan divin. Dieu planifie. Si tu marches avec Dieu, tu dois apprendre à planifier. Si votre couple marche avec Dieu, ne commencez pas une nouvelle année sans avoir planifié. Comment on commence notre nouvelle année? On va juste se consacrer à jeûner, on va prier, on va amener nos enfants, on va prier. Après avoir prié, quel est le plan? Vous connaissez qu'est-ce que demandent les frais scolaires, les frais académiques? Est-ce que ce chiffre-là est quelque part? Est-ce que vous avez les chiffres? Vous savez ce que ça va coûter les vacances de l'année prochaine? Est-ce que vous avez les chiffres? Ne commencez pas une année, ne commencez pas. N'allez pas habiter un nouvel endroit comme ça. Ne prenez pas de nouveaux risques sans un plan. Planifier, ce n'est pas charnel. Planifier, c'est fidèle. C'est être fidèle à la promesse. C'est être fidèle à ce que Dieu nous demande de faire. Un homme fidèle, une femme fidèle, un serviteur de Dieu fidèle, c'est celui qui planifie les actions à poser dans la mission qui lui a été donnée. Et enfin, 5, le Saint-Esprit envoie. L'Église confirme. Dans le plan de Dieu, pour les démarrages des choses. Je vous ai lu un texte qui montre un contexte particulier des démarrages d'église ou des démarrages de la mission. Pourquoi j'ai voulu qu'on mette ça? Parce qu'il n'y a pas qu'à démarrer les mariages, les années, les choses, mais il y a quelque chose en particulier pour nous, les enfants de Dieu, c'est le démarrage d'une œuvre missionnaire, d'une église, d'un ministère. Et je voulais quand même nuancer sur ça. Parce que là, je nous encourage à démarrer et je nous encourage à découvrir les secrets des démarrages. Il y a quelque chose d'important quand vous voulez démarrer une œuvre spirituelle ou missionnaire. C'est que quand vous voulez démarrer dans ce domaine-là, église, mission, le Saint-Esprit, c'est lui qui envoie, certes, mais l'Église confirme ça. Je vous ai lu au début dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 3. On voit qu'ils étaient tous ensemble, en train de jeûner et de prier. Il y avait des prophètes et des docteurs. Et le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour l'œuvre auquel je les appelais. » Et la Bible dit, « Après avoir fini de jeûner et de prier, il leur a imposé la main. » Ils n'ont pas dit, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, ok, faites-les sortir, qu'ils partent. » Non, ils ont fini les programmes, ils ont fait une organisation nécessaire, ils ont validé que c'était la voie de l'Esprit, et ils ont imposé les mains. L'Esprit a juste dit, mettez-moi à part. Il n'a pas dit, imposez les mains. Mais ils comprennent, ils savent quel est l'acte institutionnel de l'Église pour montrer la consécration et la mise à part de certains ministères. Il est important, frères et sœurs, que vous sachiez que commencement validé par le jeûne, l'imposition des mains, c'est ça l'acte de la Bible. Un commencement doit être validé par l'imposition de mains, par la recherche de la prière. Oh, que j'aurais voulu que toutes les églises commencent comme ça. Vous voulez aller démarrer une œuvre, le Saint-Esprit a prévenu, les gens étaient en jeûne, ils ont prié. Si ce n'est pas pendant un temps de jeûne que Dieu a parlé, et que vous êtes allé en disant, Dieu m'a parlé, je dois partir, laissez aux autres le temps de prier. C'est toujours bien de partir avec la bénédiction de l'église. Je ne suis pas ignorant et surtout pas naïf, au point de croire que tous les leaders ecclésiastiques sont autant sensibles à l'orientation de l'Esprit. Il arrive des fois qu'on conduise l'Église et on est tellement submergé qu'on ne reconnaît pas ce que Dieu dit pour chacun. Et surtout quand la façon de conduire est très personnelle et non pas collégiale. Donc c'est une seule personne qui connaît la volonté finale de Dieu. Des fois quand il y a ce système collégial, on sait reconnaître, les autres peuvent amener une voix et dire, on sent que Dieu nous parle. Je sais que ce n'est pas aussi facile. Des fois donc, dans ces systèmes, on veut dire qu'on veut s'en aller, on nous dit « Ah non, on n'est pas d'accord. » Et puis la séparation devient très, très difficile. Mais aussi le temps que cela dépend de vous. Sachez qu'il est bon, il est de bonnes pratiques. Que quand l'Esprit vous demande de commencer, l'Église vous bénisse pour le faire, vous accompagne pour le faire. Quand je parle de l'Église, je parle des anciens, je parle de personnes avec les responsabilités ecclésiastiques. Imposent leurs mains. Prie pour vous et vous bénisse pour le faire. Vous voulez commencer quelque chose de la bonne manière? Je viens de vous expliquer. Prophétie, parole donnée, structuration. Parole, vision, structuration. Je viens de vous fournir encore quelque chose de très intéressant pour débiter avec gloire. Vous n'aurez plus de raison de dire à Dieu que vous ne saviez pas par où commencer. Alors, clôturons tout ça ensemble demain. Que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.